C'est l'été, et si certains sont peut-être déjà sur la route des vacances, d'autres comptent patiemment les semaines avant leur jour de repos. C'est donc l'occasion de se laisser aller à un épisode un peu plus détente cette semaine qui va porter sur le thème des vacances. Car partir en voyage, ça ne s'improvise pas. Plusieurs de nos courageux rédacteurs vont cet été s'envoler à l'autre bout du monde pour quelques semaines. Comment préparer un voyage à l'heure du numérique et quels sont les bons conseils à suivre? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panique. Pour discuter de tout cela, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florian, qui va partir 2 semaines au Japon cet été. Salut Florian.
Bonjour.
Et je suis également avec Stéphane, qui va lui aussi décoller pour Tokyo prochainement. Salut Stéphane.
Salut Félix, salut à tous. J'ai l'impression que le Japon est une destination à la mode cet été.
Les prix ont fortement baissé.
Comme je l'expliquais, vous allez tous les deux partir en Asie, ce qui est quand même pas la porte à côté. Une question qu'on se pose souvent dans le cadre de gros voyages comme ça, c'est tout bêtement comment acheter ses tickets d'avion. Sur internet, c'est un peu la jungle avec les comparateurs et autres sites qui changent de prix tout le temps. Vous êtes passé par quel site vous pour acheter vos tickets, Stéphane par exemple?
Alors moi j'aime beaucoup le site Google Flight, ouais, qui permet de comparer les tickets de plein d'agences de compagnies aériennes différentes. Tu peux indiquer les dates de départ, d'arrivée, mmh, et puis également dire si t'as un peu de... Si tes dates sont pas forcément fixes, tu peux voir aussi un calendrier des prix, ouais, qui permet de bien voir les prix les plus intéressants sur une période donnée. C'est vraiment le site que je recommande pour voir les prix des billets d'avion pour les trajets qui sont assez longs en particulier, parce que bon, c'est les trajets les plus chers.
Ouais. Oui, en fait j'ai suivi sur pas mal de choses, j'ai suivi l'exemple de Stéphane parce qu'il avait déjà fait ce voyage, et donc je suis passé un petit peu comme lui. Bon, je fais pas beaucoup de voyages, mais les autres fois j'avais essayé Kayak, j'avais essayé Bookings, ouais. Je sais pas si ça existe encore avec Bookings, mais il y a un moment où lorsqu'on prenait une réservation, alors là, que ce soit peut-être pas les vols, mais c'était peut-être plutôt pour les séjours, on prenait des réservations via l'application, okay, on avait un prix qui était légèrement plus bas, mais ça restait quand même assez intéressant au niveau de la réduction que si on prenait exactement la même chose depuis le site web. Okay. Donc voilà, il fallait passer par l'app, et on comparait entre l'app et l'ordinateur, et il y avait un écart de prix, ils essayaient de pousser à l'usage de l'app. Alors ça, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais c'est vrai que du coup, j'ai fait un petit peu comme Stéphane, mais j'ai quand même regardé un peu d'autres sites, mais finalement, on retombe, c'est un peu toujours sur les mêmes prix. Ouais. C'est pas une destination où il y a des... Alors c'est une destination qui est chère à la base, très chère même, et où il y a pas non plus une différence, une concurrence sur les prix. Il y a pas de formule magique, quoi. Il y a pas un choix. On se dit, tiens, je peux prendre là, ça va être beaucoup moins cher que là, chez un tel, ou un autre. C'est toujours très assez similaire. Ouais. Et au bout du compte, ben voilà, j'ai fait un petit peu comme lui. J'ai fait une programmation avec mes dates, et puis je suis passé par là. Et après, on était envoyé directement, je crois, sur la compagnie aérienne. C'était ça.
C'est ça. Après, tu peux acheter ton billet sur la compagnie aérienne. Ouais.
D'accord, c'est pas directement par le site de la compagnie.
C'est ça. Ouais. Et tu peux, j'en ai pas parlé, mais aussi tu peux mettre des alertes pour voir les éventuelles chutes de prix, parce que ça peut arriver. C'est vrai que là, Florian parlait des différences de prix entre l'application et le site web. Ça fait partie des choses qu'on voit souvent, en fait. C'est un peu des légendes urbaines, oui et non, parce que entre la navigation privée parfois et ta navigation normale, tu peux voir une différence de prix. Et alors, des comparateurs disent que en fait, c'est pas du tout une entourloupe, mais que ça joue en fonction de l'horaire d'achat, des gens qui ont acheté avant toi les billets. Ouais. Enfin, dans tous les cas, il faut pas hésiter à ouvrir plusieurs navigateurs et voir s'il n'y a pas une petite différence, voire une grosse différence entre les deux, parce que ça peut arriver pour des raisons assez obscures, c'est pas très clair. Et puis avant d'acheter son billet aussi, c'est il y a quelques petites choses à préparer, notamment pour les billets qui sont assez chers, c'est être sûr que sa CB, le plafond de sa carte bleue est suffisamment haut pour passer commande, parce que voilà, si tu te retrouves bloqué juste au moment de l'achat par un plafond qui est pas assez élevé, c'est dommage.
Oui, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Enfin, j'ai pas été bloqué, mais j'y ai pensé après et j'ai pas prévu le, parce que voilà, on cherche les prix au début, puis on pense pas forcément à ça, comme dit Stéphane. Et effectivement, ce que je devais payer était trop cher par rapport au plafond que j'avais. Donc j'ai ouvert 2 sessions, j'avais 2 cartes, et puis puis donc j'ai pris les billets sur 3 billets sur l'une, un billet sur l'autre, en espérant que dans les 2 microsecondes où j'allais prendre l'autre, parce qu'il y avait marqué peu de billets, je sais plus, il y avait un truc comme ça, c'était, on sentit qu'il y avait peut-être pas beaucoup de billets. Je me suis dit, ça doit être que, voilà, j'en prends 3, puis hop, l'autre, j'ai pas le temps de le prendre. Mais oui, du coup, j'ai dû un peu jongler entre deux réservations à la fois et avec 2 cartes.
Ouais, surtout que vous deux vous portez en famille, donc c'est pas un seul billet un peu cher, c'est 3 ou 4 billets, donc oui, forcément, ça fait des sommes conséquentes.
Et puis vérifier aussi avant les garanties, les assurances qui sont comprises dans sa carte bleue, parce que selon sa banque, on peut avoir des assurances différentes pour les voyages. Oui. Donc privilégier la carte si vous en avez plusieurs avec les meilleures assurances pour les voyages.
Ouais. Ou prendre si on a une carte, moi j'avais une carte de base de Boursorama, prendre une carte. Changer quoi, prendre une carte un peu plus élevée.
Je crois que c'est Revolut qui loue la carte, ils ont une carte genre Super Ultimate machin, ça doit être 15€ par mois, et par contre là t'as de super conditions pour les...
Alors ça, par contre il faut, moi je l'ai, bon, j'ai pas d'assurance donc je touche du bois là où il y en a, il faut, c'est des choses qu'il faut vraiment anticiper bien en amont, parce que effectivement il faut aussi avoir la carte avant d'avoir pris le billet, sinon on peut pas prendre le billet et puis dire bah tiens je vais prendre une carte qui a des bonnes garanties, c'est logique. Donc oui, il y a pas mal de choses comme ça qu'il faut anticiper quand même pas mal à l'avance.
Le téléphone, le forfait, ça peut parfois être un peu l'angoisse. On a tous en tête des histoires de gens qui sont rentrés de vacances avec une facture de leur forfait exorbitant pour quelques MO utilisés à l'étranger. Stéphane, est-ce que tu as des astuces à ce sujet? Tu te débrouilles comment, toi, à Tokyo?
Alors, pour le forfait mobile, il y a plusieurs solutions. On va dire la solution la plus simple, c'est d'avoir un forfait qui comprend le pays qu'on visite en itinérance, en roaming.
Ouais.
Alors malheureusement pour le Japon je crois il n'y a rien. Effectivement, je ne crois pas qu'il y ait de forfait français qui comprenne de l'itinérance vers le Japon, en tout cas j'en ai jamais vu.
Ouais, ça faut avoir des trucs de patron de boîte quoi.
Oui, voilà, peut-être ça puis, ouais. Pour beaucoup de pays dans le monde il y a Free Mobile, le forfait de Free Mobile à 20€ est quand même imbattable. C'est lui qui comprend le plus de pays en itinérance dans le monde entier. Il y en a plusieurs dizaines. Donc ça peut valoir le coup de prendre un forfait Free Mobile juste pour un mois ou deux pour partir en vacances. Autrement, si le pays qu'on visite n'est pas couvert par son opérateur, alors il y a souvent des options chez les opérateurs. Par exemple, chez Soch, moi je suis abonné Soch, il y a une option 29€ pour 10 gigas au Japon. Okay. C'est une option qui est valable également pour d'autres pays. Alors c'est un peu cher, en fait c'est plus cher que les eSIM dont je vais parler, mais c'est la solution quand même la plus simple. Il suffit de prendre l'option pendant un mois, et puis ensuite, dès qu'on arrive au Japon, le forfait Soch est compatible. On n'a pas besoin de changer de carte SIM, d'ajouter une SIM, c'est le plus simple. Autrement, une solution qui est de plus en plus populaire ces dernières années, c'est une eSIM, donc c'est-à-dire une SIM dématérialisée. Donc on télécharge l'application d'un fournisseur d'eSIM. Alors là il y en a des centaines, c'est devenu un vrai business. Et avec donc on choisit une eSIM pour le pays de destination, et il y a plusieurs formules différentes, il y a 1 giga, 2 giga, 3 giga. Certains opérateurs proposent même des forfaits illimités. C'est vraiment la jungle, il y a des centaines d'offres. Pour comparer les prix, j'ai trouvé un site qui est pas mal, qui s'appelle esimdb.com. Vous pouvez comparer les prix de plein d'opérateurs, de fournisseurs d'eSIM différents. Une des dernières choses à prendre en compte aussi, c'est si vous avez une Apple Watch cellulaire et que vous voulez l'utiliser en itinérance donc à l'étranger, c'est seulement Orange qui propose l'itinérance sur Apple Watch pour le moment. C'est pas encore le cas chez SFR.
Ok. Et toi, Florian, tu vas faire comment?
J'avais vu ce forfait. Alors nous, on est donc 4 et nous sommes 2 chez Soch et 2 chez Red. Et il y avait effectivement ce forfait Soch qui était intéressant par sa simplicité. Alors j'avais vu dans le forum de Soch des gens qui revenaient du Japon là entre avril et mai, qui se plaignaient apparemment les débits n'étaient pas terribles. Alors Soch leur disait oui, mais ça vient peut-être des opérateurs ou de votre, enfin des opérateurs japonais ou de votre téléphone. Donc, mais il y a quand même pas mal de gens qui se plaignaient, dont je disais bon, c'est peut-être pas la bonne solution. Comme disait Stéphane, il y a énormément d'offres en eSIM, donc ça c'est pas un problème. Je me demande même si vu qu'on est 4, on va peut-être prendre 4 petites quatre accès chacun, peut-être un chez Soch, une eSIM, et puis peut-être deux autres types d'eSIM, peut-être pas tout mettre les yeux dans le même panier.
Oui, si tu peux avoir comme ça des opérateurs différents.
Sachant que ça ne sert peut-être à rien si tu prends deux eSIM différentes mais qui tapent le même opérateur au Japon, ça ne servira peut-être à rien. Mais bon, voilà, histoire de simplifier encore un peu la vie. Je n'ai pas encore trop affiné. Je regarde un peu. Puis il y a aussi ça, il y a aussi se dire, on prend combien de gigas ? Quelle capacité on prend ? Ouais. On y va pour se balader, on n'y va pas pour faire de l'Instagram toute la journée, donc on n'a pas besoin non plus de gros volumes. Mais est-ce qu'on prend 5 gigas, c'est peut-être pas assez, 30 c'est peut-être trop. Bon, on verra. Il faut déjà ça peut être un peu compliqué d'essayer d'estimer ce dont on a besoin. Ouais. Et puis après, c'est plus dans les comportements. Après, parce que moi j'ai deux enfants, une assez jeune. Ouais. Les notions cellulaires, Wi-Fi, c'est pas un truc qui est très clair dans sa tête. Ouais. Et juste pour une anecdote, c'était il y a 2 ans, elle était à peu près ado. Et on était dans un coin, alors pour le coup c'était en France, on n'est pas du tout de Wi-Fi dans cette maison, juste donc tout était en cellulaire, un petit hameau, voilà, que 3G, 4G. Et puis je vois ma fille qui se balade autour du hameau en discutant au téléphone avec quelqu'un, puis au bout d'un moment, ça faisait un quart d'heure qu'elle se baladait comme ça, je lui dis mais tu discutes avec qui, par curiosité ? Elle dit avec ma copine, hein. Je dis mais ta copine c'est pas celle qui est à Taïwan en ce moment ? Et oui, donc elle a pas, non, WhatsApp, téléphone, tout ça, c'était pas très clair, elle avait un forfait SFR qui devait coûter 5 €, donc on s'en est pas tiré pour très cher, ça faisait moins de 40 €. Les 17 minutes, je crois, c'était 17 minutes de conversation avec Taïwan. C'était pas énormément cher, mais par rapport au prix de son forfait, c'était genre 6 ou 7 euros forfait qui était parti en fumée. Donc, même là encore, j'en ai rediscuté avec elle et elle m'a dit oui, c'est pas très simple, ces histoires de cellulaire, de Wi-Fi. Ils savent ce que c'est que le Wi-Fi, mais après, au-delà. Donc, il y a aussi ça avec les enfants, regarder un peu les usages et puis paramétrer les téléphones.
Mais avec les adultes, hein, c'est pas clair pour tous.
Oui, tout à fait.
En parlant aussi de giga, il y a le mode faible données sur iOS qui permet d'économiser un peu les gigas quand on est à l'étranger ou même en France, mais c'est pratique à l'étranger quand on a un forfait limité.
Okay, mais après, il y a des formules aussi radicales où toi, Félix, tu me disais j'enlève ma SIM française je suis à l'étranger, ou alors peut-être se balader en mettant juste, on se met carrément en mode avion, et puis après tout, on a juste besoin de payer, de faire des photos, et puis chercher un peu plan en plus, on peut télécharger offline. Donc si on est vraiment inquiet, on peut toujours dire je me mets juste en Wi-Fi quand je me balade. Oui. Si j'ai besoin de passer un coup de fil, j'active le cellulaire, puis je passe par WhatsApp. Donc il y a un peu des manières, je pense, à lâche, quoi.
Non, c'est vrai que moi, ça me stressait, ces histoires de forfait. Du coup, dès que je montais dans l'avion, je passais en mode avion, j'enlevais la SIM, je la mettais bien dans le sac, et je me disais, au moins, là, c'est sûr que...
on sera tranquille. Qui fient,
et j'en ai pas parlé, mais une dernière solution aussi pour avoir un forfait Internet à l'étranger, c'est simplement de prendre une SIM sur place, aussi.
Ça marche.
Voilà, c'est un peu plus... compliqué, enfin ça demande de se déplacer par rapport à une eSIM, mais dans certains pays en fait c'est même la solution basique, on va dire.
Disons qu'au Japon ma capacité à pouvoir faire ça facilement, je pense qu'elle sera un peu plus réduite parce qu'il faut discuter avec des gens, expliquer, des choses comme ça, je préfère les faire en amont.
Oui, surtout qu'avec les SIM c'est facile.
Là j'étais parti en Corée en début d'année, j'avais pris une eSIM sur Opissim, mais c'est vrai que c'est simplissime comme truc, quoi. Tu payes avec Apple Pay, ta carte elle s'active dans la foulée, c'est vraiment super simple. Florian, est-ce qu'il y a des bricoles qui peuvent dépanner que tu as acheté pour le voyage en avion ou sur place? Est-ce que tu vas emmener ton Vision Pro pour frimer dans l'avion?
Non, j'ai pas de Vision Pro, puis on va essayer de pas s'encombrer de choses un petit peu lourdes qui prennent de la place.
Il y en a un à la rédac, hein.
Non, ça serait très classe, puis le vol est long, donc ça serait très bien, mais on va dire qu'on va essayer d'y aller un peu à vide pour revenir avec d'autres choses. est-ce que j'ai prévu des choses? Non, c'est plutôt un petit peu ce que font peut-être pas mal les gens, mettre prévoir des AirTags pour 2-3 bricoles, même si voilà, je ne suis pas plus inquiet que ça. Qu'est-ce que j'avais prévu aussi? Les cartes de transport, ça c'est pas mal. Stéphane, je crois, l'a déjà utilisé. Les cartes de transport que tu peux utiliser, transport en commun, métro ou autre, que tu peux télécharger directement depuis, depuis ton iPhone.
Ah oui.
T'as pas allé sur, enfin, pour le Japon en tout cas, t'as pas allé sur un site ou quoi que ce soit. Ouais. Tu vas littéralement dans Wallet, tu tapes le nom, paf, tu télécharges ta carte.
Ah oui, c'est pas mal ça.
C'est fait. En plus, après, il y a les trucs classiques, la batterie externe, parce qu'on se dit, voilà, on sait jamais. Après, on va, comme Stéphane, on va à Tokyo, on est au bout du monde, mais on n'est pas perdu dans un désert.
Oui.
Et puis voilà, si on ne peut pas dire qu'il y aura, on court beaucoup de risques de se retrouver sans sans gadget électronique, surtout au Japon.
Oui.
Donc finalement, il n'y a peut-être pas besoin de tonnes de trucs, à part peut-être une paire de baskets, et puis en électronique, on peut aussi dire, on verra sur place.
Oui,
mais j'ai pris juste par contre, si, parce que je n'y avais pas pensé au début, j'avais acheté des adaptateurs, parce que les prises sont un petit peu différentes, mais des adaptateurs très classiques, quoi, les bons vieux adaptateurs de prise. Et Stéphane m'a montré un adaptateur, donc c'est un bloc qui se branche sur la prise du mur, et avec des broches, on a des jeux de broches qu'on peut changer selon le pays où on est. Et avec des prises, des ports USB, USB-C, USB-A, donc tout tout bête, il n'y a rien de fantastique, mais c'est vrai que c'est finalement pas plus mal, parce que c'est, voilà, on branche ça sur le courant, sur le secteur, on met tous ses iPhone et iPad ou autre, et on ne s'embête pas avec 4-5 adaptateurs pour autant de prises. C'est des petits trucs comme ça, que j'en aurais pas eu l'utilité en France par exemple. Typiquement des choses qui sont intéressantes pour
C'est vrai que t'arrives sur place, tu l'as pas, t'es bien dans les voyages, quoi.
Et ça t'évite d'avoir t'emmènes toujours beaucoup de câbles, mais ça t'évite d'emmener plein de petites prises que tu branches un peu partout, et ça coûte une quarantaine d'euros,
t'as différents modèles, parce que j'avais une vieille une prise universelle comme ça, j'avais acheté il y a 10-15 ans, qui avait juste un port USB-A, et puis là, en faisant un petit tour sur Amazon, j'ai regardé s'il y avait des nouvelles prises, puis effectivement, maintenant, elles sont passées à l'USB-C, et puis il y a même différentes puissances.
Tu peux recharger un MacBook
Il y en a qui font qui délivrent juste 15 watts, d'autres 60 watts, et d'autres qui sont encore plus puissantes.
D'accord.
Donc, rien qu'avec cette prise universelle-là, tu peux recharger plusieurs appareils en même temps. C'est bien pratique, plutôt que d'emmener plein de petits chargeurs.
Et toi Stéphane, il y a des trucs que tu fais en sorte de jamais oublier?
Par rapport à ce qu'a dit Florian, j'ai juste un truc en plus, c'est mon appareil photo. Mais c'est en fait d'année en année, j'utilise de moins en moins mon appareil photo parce que l'iPhone prend une place de plus en plus importante. En fait, mon appareil photo, c'est un hybride que j'ai acheté il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, et un modèle d'entrée gamme qui est très bien, c'est un Olympus, mais bon, maintenant il a un capteur 12 mégapixels, mon iPhone 15 Pro il a 48 mégapixels. Mon iPhone 15 Pro il s'est filmé en 4K HDR, ce qui est pas le cas de mon appareil photo. Donc c'est vrai que je me demande de plus en plus si je vais utiliser mon appareil photo, mais les voyages, enfin, j'ai acheté ça pour ce type de voyage-là, et ça fait malgré tout de plus belles photos, entre guillemets, que l'iPhone dans la plupart des cas. Donc l'appareil photo, c'est quelque chose que j'emmène. Et à part ça, les AirPods Pro pour l'avion, parce que ça isole bien du bruit. Et puis, et j'avais aussi noté un petit hub USB-C, et ça c'est pour mon iPad mini, ça me permet de décharger les photos de mon appareil photo, puisqu'il n'y a pas de prise USB-C non plus. Donc ça fait partie des petits accessoires, mais j'essaie de voyager léger aussi, de ne pas emmener trop de matériel informatique.
Je vais pas emmener d'ordinateur, mais je vais prendre l'iPad mini, qui est un iPad mini de la rédaction, parce que c'est vrai que c'est pas pour me balader avec dans les rues, mais le soir dans l'appartement, ça peut être plus sympa qu'un téléphone quand on va regarder des plans ou autre.
C'est
un écran un peu plus grand, quoi. Et il n'y a pas besoin d'emmener dans mon cas, d'ordinateur.
Dans le genre petit gadget, moi j'avais emmené la dernière fois l'adaptateur Bluetooth pour utiliser ses AirPods en avion, de 12South, qui est pas mal du tout. C'est un peu compliqué à connecter parce qu'en fait t'as pas d'écran sur ce truc là, donc du coup t'actives la connexion, tu mets tes AirPods à côté et t'espères que ça va fonctionner, mais ça se connecte quand même assez facilement. Et c'est vrai qu'après, comparé aux écouteurs pas forcément terrible qui donne sur les longs courriers. Là, t'es bien content d'avoir juste AirPods. Mmh. Tu peux mettre l'annulation de bruit et tout. Et c'est un achat qui est pas mal. Ouais. En plus, la batterie tient plutôt bien. Enfin, sur un voyage, moi, c'était une douzaine d'heures. Ça a tenu de A à Z. Tu recharges en arrivant et ça va. Donc, ouais, je crois que c'était une 60aine d'euros à peu près. Mais bon, si vous voyagez souvent, ça peut être intéressant. Stéphane, tu as l'habitude de souvent aller au Japon. Est-ce qu'il y a des apps pour iOS que tu recommandes aux voyageurs?
Alors, souvent aller au Japon, je vais rétablir une vérité. Hein. J'aimerais bien y aller plus souvent, mais j'y suis allé quelques fois. Et là, ça fait un moment que je n'étais pas allé. Je n'étais pas allé depuis la pandémie, donc je suis impatient d'y retourner bientôt. Là. Pour le Japon spécifiquement, Florian en a un petit peu parlé, c'est ce que je recommande, c'est les cartes dématérialisées de transport, en fait, qui sont pas seulement de transport, c'est aussi des cartes, alors ça s'appelle Suica, où il y a également l'équivalent qui s'appelle Pasmo, donc des cartes qui permettent de prendre les transports en commun dans Tokyo et même ailleurs. Vous pouvez juste aller dans l'application carte qui s'appelait Wallet anciennement, appuyer sur plus, faire app de carte de transport, et puis là vous allez trouver les trois cartes japonaises. Ouais. Vous pouvez les créditer très simplement avec Apple Pay, et donc là vous avez une carte prête à l'emploi pour prendre les transports et même payer dans les konbini, dans les supérettes japonaises. Okay. C'est vraiment hyper pratique, il n'y a pas besoin d'installer une application supplémentaire, c'est vraiment intégré. Et c'est en fait finalement c'est ce qui vient d'arriver à Paris avec les cartes Navigo, c'est un peu le même principe, donc une carte téléchargée depuis l'application carte justement.
Okay.
Et puis en dehors du Japon, il y a l'application Flighty. Que je conseille, si vous prenez l'avion, c'est une super application qui est vraiment bien faite pour voir votre voyage, votre itinéraire, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, tout ça, il y a des notifications. Alors, une partie est payante, mais les informations de base sont gratuites. À part ça, pour les voyages, j'utilise aussi une application qui s'appelle Currency.
Oui.
Ça sert à convertir les devises, donc c'est pratique. Donc dans l'Union européenne avec l'euro, c'est pas nécessaire, mais si vous allez au Japon ou ailleurs avec une monnaie étrangère, donc c'est très pratique pour convertir les devises. Elle existe même sur Apple Watch. Et puis pour ce qui est traduction, j'utilise généralement Google Traduction, mais là je pense que je vais essayer un peu ChatGPT.
Ah oui.
Notamment avec sa fonction, en fait, on peut prendre maintenant une photo et lui faire analyser la photo et lui faire traduire le texte. Et j'avais remarqué que ChatGPT était souvent meilleur que Google Traduction ou Apple Traduction pour traduire du japonais vers le français. Donc j'essaierai ça cet été. Et puis pour les transports en commun, pour ce qui est du Japon, de toute façon, Google Maps ou Apple Plan sont tous les deux intègrent toutes les lignes de transport en commun, donc ça fonctionne très bien.
Oui.
Après, dans certains pays, il peut y avoir des applications spécifiques, mais pour le Japon.
Ok. Ouais. L'aspect bancaire, ça peut être un problème. Difficile de payer en euros dans un combiné au Japon, par exemple. Florian, est-ce que tu as prévu une carte d'une néobanque ou un truc du genre pour partir?
J'avais déjà une carte de banque standard, le Crédit Agricole, puis j'en avais Boursorama depuis un petit moment. Et j'avais celle de base, donc j'ai juste pris le modèle au-dessus de la carte.
D'accord.
Pour avoir un peu plus de latitude. Mais oui, l'idée, c'était de se servir de la Boursorama pour éviter les frais.
Ouais.
Et parce qu'il faut quand même, puis il faut aussi regarder un peu les frais de retrait ou les conditions de retrait d'argent liquide, parce que c'est apparemment le Japon, il faut quand même avoir un petit peu toujours avoir un peu de pièces ou de billets dans sa poche dans certains cas. Enfin,
ouais.
C'est pas un pays, je sais pas s'il y a d'ailleurs des pays où c'est comme ça, mais des pays où on peut se passer complètement d'argent liquide. Il faut.
Oui, c'est comme en France, en fait, dans certains petits commerces n'acceptent pas les paiements par carte. Au Japon, t'en as encore beaucoup qui te demandent de payer en liquide dans les petits commerces.
Donc juste une carte. Et puis j'ai aussi j'ai une de mes enfants qui est assez jeune et je voulais lui activer Apple Pay. Donc j'ai activé Apple Pay sur son téléphone,
ouais.
ce qui est et c'est pas toujours très simple parce que c'est pas très clair dans les notes, les documents de support technique d'Apple, de savoir à partir de quel âge exactement on peut activer Apple Pay. Peu un âge général, mais en disant ça dépend des pays. Mmh. Et donc voilà, parfois il faut un petit peu, je crois que c'est 13 ans, je sais plus ce qu'on avait.
C'était plus justement,
c'était 14.
14 ou 15 même.
14 ou 15 en France, ouais. Okay. Donc selon l'âge de l'enfant, et si c'est plus pratique. Si on peut se dire, ouais, bah, c'est une enfant, elle n'a pas besoin d'avoir un Apple Pay sur son téléphone. Mmh. Mais c'est plus des précautions, on se dit, oui, si elle a besoin, tac, tac, tac.
Oui, oui.
Voilà, Apple Pay, il y a une limite, donc 14-15 ans, ou 15 ans peut-être en France. Et voilà, c'est pas toujours simple à activer quand l'enfant n'a pas 15 ans. Il faut parfois ruser un petit peu, okay, si on veut vraiment.
Ok. Et toi, Stéphane ?
J'avais ouvert un compte N26 il y a c'était en 2016-2017, enfin lors de l'ouverture du service en France, pour éviter justement aussi les frais à l'étranger, parce que dans les banques, on va dire traditionnelles, il y a souvent avec les cartes par défaut des frais assez élevés quand on réalise des paiements ou des retraits à l'étranger. Donc j'avais pris N26. Depuis, j'ai ouvert aussi un compte Boursorama. Et voilà, pour les banques, oui, c'est faut faire attention aux frais. Ouais. Et mais maintenant, on trouve plein d'alternatives gratuites, donc les néobanques, N26, Revolut, qui proposent des cartes sans frais à l'étranger.
Ok.
Mais c'est pareil, voilà, c'est des choses à anticiper avant, parce que bon, ça prend pas beaucoup de temps d'avoir une carte, mais. Ça fait partie des trucs, oui, il faut se dire, tiens, allez, je vais m'en occuper, après c'est réglé, choisir la bonne carte.
Quand j'étais parti en Corée, j'utilisais ma carte Revolut que j'ai depuis assez longtemps, et qui est pratique, parce qu'en fait, dans l'app, quand tu payes en won ou dans une monnaie étrangère, ça te met entre parenthèses que ça vaut en euros à peu près. Mmh. Par exemple, si tu payes un café, je sais pas, 3000 won, ça te met entre parenthèses 1,75€ ou un truc du genre.
Et 15 euros, t'es pas dans l'app.
Donc ça, ouais, c'était plutôt pratique. Florian, tu pars dans un pays que tu connais pas, t'as prévu des itinéraires ou tu vas improviser au jour le jour ?
Improvisation totale.
C'est vrai.
On va essayer de trouver un Airbnb en arrivant. Alors zéro improvisation, au contraire, c'est parce que c'est vrai que c'est un pays où on ira peut-être qu'une seule fois, et puis comme tous les voyages, on n'a pas envie de se louper, mais encore moins quand c'est très loin et très différent. Je passe une bonne partie des week-ends comme ça à glaner un peu des informations. C'est pas ce qui manque, il y en a presque même trop, parce que les sites sur le Japon, mais ça vaudrait pour l'Angleterre, l'Italie ou autre, il y en a dans tous les sens. Donc évidemment, on retombe toujours un peu sur les mêmes conseils, les mêmes choses, mais disons que je suis tout bêtement fait une note que j'ai partagée avec le reste de la famille. Et puis je fais un peu, alors je suis parti de l'idée de faire, comme on va principalement rester dans une ville, de faire quartier par quartier, c'est-à-dire il y a des quartiers très identifiés, avec des choses à voir, donc voilà, ce quartier il y a ça, ce quartier il y a ça. Et de se dire, une fois qu'on sera sur place, allez, on consacre une journée, en à peu près 15 jours, une journée à ce quartier, on en fait le tour, et puis comme ça, on les fait tous un petit peu. Donc ça veut dire, il y a prendre les adresses, les endroits, tout ça, se faire une liste, puis après trier un peu ce qui a l'air intéressant, et puis se faire pourquoi pas aussi des thèmes, c'est-à-dire, tiens, les musées, il y a quoi ? Sachant que les musées, l'été, il y a souvent c'est ce que j'ai vu là, il y a des périodes où ils sont entre deux expositions, des expositions temporaires, il y a des moments où pendant 15 jours, 3 semaines, ils ferment une exposition pour en préparer une autre, donc là, il n'y a rien à voir. Alors, ça va tomber pile au moment où on y va. Après, les musées, les parcs, les bâtiments, se faire un peu des trucs thématiques comme ça. Et puis glaner des petites astuces. Il y a un truc que j'avais bien aimé, c'était quand on avait fait un voyage à New York il y a un moment de ça. Et à New York, on a toujours tenté d'aller en haut d'un gratte-ciel pour voir la vue sur New York. Et j'avais lu sur un site, le bonhomme disait, ce qui est intéressant quand on va sur un observatoire, donc ça vaut pour toutes ces villes où on monte quelque part pour profiter de la vue. Il faut pas y aller à midi, il faut pas y aller le matin, vous y allez en fin de journée quand il fait encore jour. Comme ça, vous avez tout le panorama sur la ville, donc vous en profitez. Et vous attendez, quand vous n'êtes pas obligé de rester juste une heure et puis de partir, vous attendez que le soleil se couche, et là vous avez la ville qui s'éclaire, et ça fait deux ambiances complètement différentes, ça fait deux ambiances pour le prix d'une, et c'est vrai qu'on l'avait refait ça, et c'est vraiment intéressant, parce que on a deux vues de la ville qui sont vraiment intéressantes, et puis après, c'est plus de la compilation de notes, on trie, j'ai essayé, alors comme il y a beaucoup de choses, on retombe souvent sur les mêmes choses, j'ai aussi essayé que ChatGPT, pour le coup, au bout d'un moment, je dis, quels sont les plus beaux parcs à voir ou les principaux musées. alors c'est bien parce qu'il sort quelque chose de très structuré, mais on va dire 9 réponses sur 10 c'était des choses qui que j'avais déjà vu,
oui, c'est pas sur surprenant, titre,
ce qui est pas surprenant puisqu'il va aller chercher lui-même aux mêmes endroits. Donc, mais ça peut donner parfois des idées. Je m'en suis même servi hier. Il y avait un itinéraire. Je voulais voir comment aller dans une ville un petit peu à côté de Tokyo. Quel train prendre. Donc j'ai essayé avec Plan, j'ai essayé avec Google Maps. Puis ça me sortait des trucs un peu différents. Enfin, j'ai essayé du coup avec ChatGPT. Quel est le meilleur trajet? Donc il m'a sorti tout un truc qui se tenait, qui avait l'air de se tenir. Donc il y a pas les, il manque pour le coup les tracés, les trucs pour visualiser ça, mais finalement ça devient un outil qui peut être intéressant, ne serait-ce que pour à la limite j'aurais pu commencer par ça, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur plein de sites et de taper dans Google, on commence par ça, il sort des points forts et puis après on écrème et puis on élargit un peu le plan.
Ouais, faut bien pour ça vérifier derrière, mais
ça peut faire une bonne base. Après voilà, une fois qu'on a passé en revue beaucoup de sites, on se rend compte que pour ce genre de questions, voilà, il va pas inventer des trucs complètement farfelus. Et puis après, faut aussi se dire, on a beau tout prévoir, prévoir beaucoup de choses, parce qu'on va rien manquer, parce que c'est un pays, on se dit, je n'y vais qu'une fois, je ne vais rien manquer. Une fois qu'on est sur place, il y a ce qu'on a prévu, et puis on voit ça, on va dans une rue, on va on va là, et puis le plan, dévie un petit peu du plan qui est prévu.
Stéphane, toi, tu as des astuces pour découvrir des choses à faire dans une grande ville?
Est-ce que j'ai des astuces? Non, enfin, oui et non. J'aime bien utiliser l'application Wikipédia.
Ouais.
Lors des voyages, en fait, elle a un mode de géolocalisation où tu peux voir à côté de là où tu es tous les points, tous les points d'intérêt qui ont une fiche Wikipédia.
D'accord.
Et ça te permet d'avoir comme ça des informations fiables sur tout ce qui t'entoure.
Ouais.
Donc, je trouve que c'est un bon moyen de découvrir les villes ou même d'autres lieux. Et puis, j'aimais bien, j'utilisais l'application pendant un moment Google Trips, qui était super pour organiser ses voyages. Tu pouvais définir la durée de ton voyage, et puis Google te faisait un programme un peu tout fait, personnalisable ensuite, mais qui était pas mal. Et comme c'est un service Google, Google a décidé un jour de l'arrêter. Voilà. Ouais. et depuis, il y a des autres applications comme ça qui permettent d'organiser ces voyages, mais j'utilise simplement en fait calendrier et notes aussi.
Okay.
Un peu maintenant les onglets partagés de Safari.
Ouais.
C'est pas mal aussi pour partager rapidement des sites web.
Oui, ou alors se faire je sais plus comment ça s'appelle dans Safari, c'était ce qui était sorti l'année dernière, où on se fait un groupe d'onglets thématiques. Ça évite de, j'avais fait ça pour les recherches d'avion justement aussi, pour garder un peu ces onglets toujours ouverts et pas les perdre.
Ça évite d'avoir plein de liens dans notes.
Et justement, quand tu parles d'applications pour organiser, moi du coup là j'ai utilisé beaucoup Plan, où il y a une fonction, enfin il y a un dossier guide dans lequel on peut mettre, on fait un dossier Paris, Londres, et puis on met toutes les adresses qu'on a enregistrées dans Plan, et c'est là que je me suis rendu compte, c'était qu'il y a vraiment pas terrible leur truc, et dans iOS 18 ça change pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, mais bête et méchant, on fait un dossier à Tokyo, quand j'enregistre une adresse dans Plan, je la glisse là, mais et puis c'est une bête liste, on peut pas réordonner les liens en disant tiens, je vais d'abord mettre la liste des restaurants, ou je vais faire un sous-dossier, ou je vais faire une séparation, histoire de structurer un peu son truc. Non, les liens sont tous rangés comme ça par date de création. Y a pas de... Et un autre truc qui aurait été pas mal aussi, c'est d'avoir dans le plan, on a, je crois qu'il y a 4 vues. On a la vue explorer, la vue transport, satellite, et puis une autre, je sais plus laquelle. Et ce qui manque peut-être, c'est une vue perso, c'est-à-dire avoir une vue de la ville, mais très, très simple, et où on a juste ses adresses, ces épingles qu'on a mises, et comme ça, on peut voir un petit peu, là, il y a une concentration d'adresses qui sont à cet endroit, là, il y en a un petit peu moins, le truc que j'ai mis de côté, le restaurant, le magasin, il se trouve à côté de cet endroit, tout ça, on peut le voir dans la vue explorée, mais c'est au milieu de tout le reste, donc c'est un peu, tout est perdu, et d'avoir, comme ça, une sorte de plan un peu plus très simple, dans juste une sorte de fond de carte, en fait, un fond de carte où on peut localiser un peu les endroits où on concentre ses visites.
Ouais. Ah, c'est vrai que ça manque, ça. Stéphane, tu as déjà été au Japon plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise là-bas? Je sais qu'en Chine, par exemple, il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit sans WeChat. Est-ce qu'il y a des trucs similaires au Japon?
Il y a l'application Line qui est ultra populaire. Pour, ouais. C'est une application, c'est l'équivalent de WhatsApp. Mais en tant que touriste, c'est pas nécessaire de l'avoir, hein. C'est plutôt les Japonais entre eux pour communiquer, ils utilisent Line. Pour communiquer aussi avec les entreprises, ils passent beaucoup par Line.
Ouais.
À part ça, non, au niveau technologique, alors ça m'a pas surpris tant que ça parce que j'étais déjà au courant, mais l'iPhone est ultra populaire aussi.
Ah ouais.
C'est plus de 50% du marché va à Apple, donc tu croises énormément d'iPhone, ouais. D'AirPods aussi.
Ouais.
Ce dont on parlait un petit peu avec Florian, c'était... à la fois, le Japon est très moderne, mais sur certains points, un peu moins, donc par exemple, le liquide pour payer, ouais. Ça reste. Tu dois avoir toujours un peu de liquide sur toi parce que tu. Dans les grandes chaînes, dans les franchises, tu es sûr de pouvoir payer avec ta carte ou avec Apple Pay. Ou, ouais. Voilà. Mais ça peut arriver de tomber dans un petit restaurant ou un petit bar où, en fait, là, tu devras payer en liquide,
ouais.
En plein Tokyo. Hein. Donc, ça, c'est une des petites choses à savoir avant d'aller au Japon.
Ok, j'ai l'impression que Google Maps est assez populaire. Enfin, il est populaire partout, mais... ou alors c'est parce que moi je fais tout avec plan, et à chaque fois que je tombe sur des sites, je vois Google Maps, alors je me dis, bon, mince. Mais je sais plus où j'avais lu qu'apparemment, Google Maps était peut-être un peu mieux fait pour le Japon, Tokyo, c'est... que plan.
Ouais, c'est possible. Il y a aussi les pixels de Google sont de plus en plus populaires. Google fait vraiment une grosse guérilla marketing au Japon depuis plusieurs années. Il y a des pubs où ils emploient des stars de la télé là-bas. Donc tu peux croiser aussi pas mal de pixels parce que aussi les Samsung sont peu populaires parce qu'il y a une petite dissension historique entre la Corée et le Japon qui fait que les Japonais achètent très peu de Samsung. Donc tu croises aussi beaucoup de Google. Et puis tu as des marques aussi plus japonaises, ou en tout cas plus ancrées historiquement dans le Japon. Il y a, ouais. Yahoo, le service en ligne Yahoo, qui est quasiment disparu de chez nous, qui reste là-bas une marque assez importante pour des services en ligne.
Ah, c'est encore vrai, j'étais surpris, j'avais jamais vu autant de téléphones Samsung, et surtout de téléphones Samsung pliables.
Pliables.
Ouais. Tu sais, les gens qui mangeaient dans les restos, et du coup ils avaient leur téléphone plié comme ça, ils regardaient leurs vidéos.
Et les deux types de pliables ou...
Les deux types en plus, ouais. Types, ouais. Ouais, carrément. Et des fois c'était des personnes assez âgées qui avaient ce genre de trucs, enfin ouais, c'était vraiment tous les profils, quoi. Il n'y avait pas que des iPhones. Et pareil, Apple Pay, j'étais assez surpris, des fois ils connaissaient pas trop, alors que par contre Samsung Pay, il y avait des autocollants.
Apple problème. Pay, c'est assez récent en Corée.
Oui, c'est vrai, en plus, oui. Florian, est-ce que ramener un iPhone ou un Mac de l'étranger, c'est un bon plan ?
Faut déjà voir les prix. Bah, évidemment, la différence de prix. J'avais vu qu'au Japon, il y en avait un petit. Ça dépendait des produits d'Apple. Il y en a qui étaient où il n'y avait pas une différence qui était très intéressante.
Ouais.
Alors, je ne sais plus si c'était sur les iPhones ou c'était un peu plus marqué. Bon, ça ne va pas être la priorité du voyage. Mm-hmm. Mais après, on avait fait c'était Pierre qui avait fait un article sur les. Ces produits. Je ne sais plus si c'était uniquement sur les iPhones, mais. Qu'on achète à l'étranger ou qu'on achète en France mais qui viennent de l'étranger via les Rakuten, etc. Et avec parfois des fonctions qui sont pas là. Et c'était le cas, par exemple, on parlait de la Corée où en Corée la fonction localisée ne fonctionne pas. Et apparemment, c'était, même si l'iPhone acheté en Corée est utilisé en France, c'était verrouillé c'était verrouillé sur téléphone. Quoi. Il suffisait pas de changer de pays pour que ça fonctionne. Donc il y avait pas mal de petites choses comme ça. C'était pas ça venait pas de pays très très courants, disons, donc les risques étaient pas très élevés.
Ouais.
J'ai eu récemment un copain qui s'est fait livrer un iPhone 15 ou 15 Pro, je sais plus, des États-Unis par un ami à lui. Et il savait pas qu'ils étaient depuis 2 ans complètement eSIM, qu'il n'y avait plus de logement.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Donc je lui dis, ah oui, mais attention, il faut que tu prévois une eSIM. Donc lui, c'était pas trop son domaine, tout ça.
Ouais.
Donc, mais bon, ça a été vite réglé. Il a pris une eSIM chez Free et ça c'est. Ouais. Mais voilà, c'est des petits détails auxquels on arrive, on déballe son téléphone et tiens, je mets jamais où la SIM, il est où le tiroir.
Ouais.
Là, il y en a pas.
Dans le même genre, t'as l'Apple Watch, là, qui a pu aux États-Unis.
Encore plus.
L'oxygénisation, là.
Et je sais plus si ça avait été ce qu'il en était si on achetait une Apple Watch là-bas et si on l'amenait, la faisait fonctionner en France, il me semblait que ça ne marchait
ouais,
pas.
Ouais, il me semble. Enfin, vaut mieux partir du principe que non, quoi.
Voilà. Donc, oui, l'Apple Watch, c'est le bon exemple pour le coup d'un produit courant, d'un pays courant aussi. On se dit, ah oui, il risque d'y avoir un petit problème.
Oui.
Puis après, il y a les histoires, bon, les ordinateurs, il y a les claviers, etc. Donc, c'est pas très intéressant, mais c'est peut-être plus après sur des petites choses comme les AirPods. Toi, tu avais ramené une paire d'AirPods de Taïwan, c'était ça, où il y avait une gravure un peu commémoration, de célébration de quelque chose.
Oui,
pour des petites choses comme ça, des AirPods Max ou autres, selon les prix, ça peut être
intéressant. Il faut faire gaffe aux contrefaçons après, mais bon, si on reste dans les boutiques officielles.
Oui, voilà, il faut aussi évidemment pas tenter le diable et se dire, oula, il y a un super prix.
Oui. Sur un marché, d'ailleurs, pas très cher. Ouais.
Et puis après, il y a l'éventualité de la douane aussi, à ne pas négliger.
Oui, en plus, Est-ce qu'il y a des points sur lesquels il faut faire attention au niveau app au Japon, Stéphane ? Ou au niveau web, tout court même ?
Alors, ça dépend ce que vous voulez faire. Enfin, là, je pensais, par exemple, si vous voulez regarder la télé française sur MyCanal ou Molotov, ça ne sera pas possible parce qu'il y a des restrictions géographiques. Si vous quittez l'Union Européenne, les services-là ne vont pas vous laisser regarder la télé française. Et ben, dans ces cas-là, la solution, c'est d'utiliser un VPN. Ouais. Ça fonctionne bien, généralement. Un VPN, c'est aussi recommandé quand on se connecte à du Wi-Fi dans un café ou un aéroport, parce que les réseaux publics Wi-Fi ne sont pas sécurisés. Donc une personne peut intercepter vos communications, et un VPN, ça permet de contourner ce problème. Donc là, les VPN sont très utiles pour ces deux cas-là. Après, il y a le cas un peu particulier du DMA. Donc là, on est rentré dans le DMA est maintenant en place depuis quelques mois. Et si vous avez téléchargé une boutique alternative et des applications sur une boutique alternative, en fait, et que vous restez plus de 30 jours en dehors de l'Union européenne, alors vous pouvez toujours utiliser l'application et la boutique, vous pouvez toujours utiliser l'application, mais par contre, vous ne pourrez plus la mettre à jour. Donc ça pose un petit problème.
Ouais.
Et puis sinon, de manière un peu plus générale, niveau application, mais ça rejoint en fait ce qu'on disait sur les forfaits, c'est pour éviter de consommer trop de gigas à l'étranger, c'est préférer télécharger les contenus hors connexion. Dans Google Maps et dans Apple Plan, vous pouvez télécharger une carte de l'endroit où vous allez aller, et ça vous permet comme ça d'avoir toujours une carte sans trop utiliser de données à l'étranger.
Florian, est-ce que tu as des conseils sur comment préparer son iPhone pour les vacances ?
Est-ce qu'il y a des choses... après, il peut y avoir des choses qui peuvent un peu simplifier perdre moins de temps, disons, se faire un dossier, par exemple, Stéphane parlait d'applications un peu dont on a vraiment besoin qu'au Japon, se faire un dossier où on réunit toutes ces applications, voilà, au moins on les a sous la main, ou alors on se fait un écran d'accueil avec uniquement ces apps-là, ça peut être pratique. Les trucs tout bêtes, mais vérifier la capacité de stockage, ce qui reste de stockage sur son iPhone, ça serait bête d'aller dans un pays étranger, de faire des photos, puis se rendre compte qu'on a... j'exagère, mais plus que 1 giga et dire, il va falloir que je perde du temps à trier mes photos, faire de la place, au moins faire ce nettoyage un petit peu avant. On avait fait un article qui était assez intéressant, je suis retombé dessus, j'avais complètement oublié, c'était Stéphane qui l'avait fait, sur se créer un mode de concentration spécial voyage.
Ouais.
Ça permet à la fois d'évacuer tout ce qui a trait au boulot, donc les mails, etc., parce que ça va jamais arrêter d'arriver, et de se comparer, de se concentrer sur certaines applications. Je me le suis mis de côté pour faire le... Voilà, c'était un mode de concentration vraiment pour ce voyage-là, avec des réglages au niveau du système et autres.
Ouais.
Et c'était assez intéressant. Il y a pas mal de choses à faire, à reprendre dans l'idée. Et comme a dit Stéphane, après, télécharger surtout quand on reste un peu à un endroit, télécharger la carte.
Oui,
c'est toujours simple. Et je me demandais, après, comme le Japon au niveau de la langue, c'est un peu compliqué, il y a les applications de traduction ou autres. Mais je me demandais si j'avais pas faire un truc tout bête ou faire une feuille dans notes avec 10, 15 phrases type. Les trucs dont je sais que je vais en avoir besoin.
Ouais.
Et plutôt que de lancer une app, parler, tac, et le montrer à la personne, dire voilà, j'ai ma note, je lui le montre, et puis c'est tout bête, hein, ça fait peut-être un peu pépé comme idée, mais ça évite des manipulations où peut-être des fois on n'a pas forcément le temps, la personne en face a la gaffe parce que la personne elle est en train de taper sur son truc, essayer de faire comprendre quelque chose. Donc je sais pas, je me suis dit peut-être que c'est un moyen assez simple et
c'est ce que j'avais fait en Corée, ouais, c'est pas mal parce que juste pour dire bonjour ou quoi, quand tu viens d'arriver, tu n'as aucune idée de comment dire, bah, au lieu de retaper à chaque fois sur Google Trap, tu ouvres ta note et paf, directement, tu as tous les trucs un peu importants, ouais, genre c'est délicieux, bonjour, merci.
Le post-it que tu te colles derrière le téléphone. Ouais. Disant, c'est voilà. Moi, c'est la phrase 4 là, en ce moment, qui me pose problème.
Non, mais ouais, c'est pas une mauvaise idée.
Je sais pas. Peut-être mettre ça dans un widget.
Ah oui.
Pourquoi pas.
On va demander aux développeurs d'en faire un rapido avant de partir.
Eh bien, merci à vous deux pour ces quelques conseils qui vont sans doute éclairer plus d'un de nos lecteurs. J'en profite pour vous annoncer que les podcasts de MacG vont passer en mode veille cet été. Il n'y aura qu'un seul carnet de panique au mois d'août et on se retrouvera ensuite en septembre pour débriefer le grand keynote de rentrée. De son côté, Sortie de Veille va lui aussi prendre une pause estivale. Stéphane, à bientôt.
Salut, à bientôt.
Florian, à la prochaine.
Oui, à bientôt.
D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, bye bye.